voix nue. Cette semaine, en hommage à l'écrivain Jim Harrison, disparu le 26 mars dernier, France Culture rediffuse sa série de rencontres avec Clémence Boulouk en 2006. Ce soir, l'espace américain.
Aujourd'hui, c'est l'espace américain que nous allons arpenter avec vous, Jim Harrison. Alors je vous lis, nous avons à peu près épuisé tous les secrets intéressants de ce pays et un bonus d'espace réactiverait notre passion.
Well, no, I don't believe. Sometimes I say stupid things because I notice very stupid things. I notice the more I walk after I got diabetes type 2, not the dangerous kind. I can't be permitted to have wine. Unless I walk 2 hours a day. Okay.
Oui, non, parfois je dis des choses stupides, il ne faut pas tenir compte de tout ce que je dis. Après avoir eu le diabète de type 2, hein, qui est le moins méchant des deux types de diabète, on m'a interdit de boire du vin, à moins que je ne marche 2 heures par jour.
But I've always walked, but now I walk even further. But what I notice, the world grows larger. The world has grown immense again when you see it on foot.
J'ai toujours marché. Tout ça pour dire que bon, maintenant je marche plus loin et je m'aperçois qu'à pied, le monde est plus grand. Le monde grandit, il est immense.
And you see it through the eyes and the nose of your dogs. You know, for instance, when my one dog would smell a wolf. Her tail would go under about 8 inches and she would run back to the car and get under the car. She knows this is a bad smell. No?
Et on voit le monde à travers les yeux de son chien et on sent le monde à travers sa truffe. Je sais que quand je me promène avec mes chiens, par exemple, lorsque une de mes chiennes sent un loup, elle a la queue qui part entre les jambes et elle va se réfugier sous la voiture.
So that makes the world more complete. Here's an idea from a Hasidic philosopher. Okay. Don't you think that reality is an accumulation of the perceptions of all creatures?
Donc le monde est une entité complète. Pensée d'un philosophe hassidique, ne pensez-vous pas que la réalité est une accumulation de la perception de toutes les créatures?
So I feed the birds at my cabin, but this bear, quite a big bear, would come in to eat the seeds made out of sunflowers, you know, he'd go, rah, 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 rah. But he would look into me, at me, I was writing and say, is it okay, please, if I have some sunflower seeds, you know? Like, how could I stop him? But he's being polite. So I am now seeing, not only am I seeing the bear, I am the bear seeing me. No.
Je donne à manger aux oiseaux près de chez moi, et tout à coup, un ours assez imposant arrive et commence à manger les graines de tournesol que j'avais posées pour les oiseaux. Il me regarde à travers la fenêtre, je suis chez moi, je suis en train d'écrire, et dans son regard, je lis une demande de permission. Est-ce que je peux continuer à manger la nourriture pour les oiseaux? Comment est-ce que je pourrais arrêter un ours, moi, surtout un ours si poli? Alors non seulement je vois cet ours, mais je vois cet ours qui me voit, moi, à travers les yeux de l'ours.
You know, it's like those old Don Juan books. The second one was the best, called A Separate Reality. You know, we realize my mother saw a different world than I see. You know what I mean? Everyone has a perception. Culture tries to make reality consensual. Your first lesson is get to work on time.
Comme ces livres de Don Juan, le deuxième était le meilleur, une réalité distincte, a separate reality. Ma mère, elle avait une perception du monde différente de ma perception du monde. Nous avons tous une perception propre et la culture essaye de créer une réalité consensuelle. Et la première leçon que l'on apprend, c'est il faut être à l'heure au travail.
It's that comic aspect of reality. The Omaha Indians, when they have a powwow, they always have a clown, okay? He dances with a big clock around his neck and a suit coat and a hat, and he keeps looking at the clock. That's us. That's their perception of us, the Indians' perception of the white man. He is always looking at the clock.
Un aspect comique, les Indiens de Omaha, lorsqu'ils font un powwow ou lorsqu'ils se réunissent, il y a parmi eux un qui est déguisé en clown en quelque sorte, qui porte un chapeau et autour du cou il a une grosse horloge. Et il regarde sans arrêt cette grosse horloge. C'est ainsi qu'il se moque de nous, nous les Blancs qui avons sans arrêt un œil sur l'horloge.
Est-ce que c'est aussi pour cela que le passage par Hollywood a été important dans votre retour à la nature pour, après la vacuité, essayer de parvenir à un nouveau rapport au temps et au monde?
Maybe, perhaps, somewhat, but I'd already started in that trail. Because actually, this old Anishinaabe I know, Bert, very ordinary man, he liked martinis. This old Indian liked martinis. That's what he wanted. But he said, you white people don't know that time is 7 times longer than you think it is if you use it properly.
On pourrait dire ça, oui, mais en réalité, j'avais déjà commencé sur cette voie. Il y a un Indien que je connais qui s'appelle Burt, un type que je connais, il aime bien les martinis. Burt me dit... Vous les Blancs, vous n'avez pas compris que le temps est en fait 7 fois plus long que vous ne le pensez, à condition que vous sachiez l'utiliser correctement.
So such things inevitably have an influence on my thinking, you know.
Donc des choses comme ça ont inévitablement une certaine influence sur ma pensée.
Because Bert would say such thing as, wouldn't it be nice if there were round rivers?
Burt, c'est le genre de gars qui vous dit ce serait chouette si les rivières pouvaient être rondes.
And then you could leave in the morning in a little boat and arrive where you started in the evening.
Comme ça, on part en bateau le matin et puis le soir, on vient au même endroit.
So he says, d'accord. No, of course.
Comment ne pas être d'accord avec Burt?
But we need this. If you're in the problem with the university, often on writers, is what they call politically correct. People start thinking ensemble, all together, the same thing. It's like a monoethic, you know. Certain people want a monoethic. We must all be this way, and you need to get out of that kind of world.
Le problème de l'université, s'agissant des écrivains, c'est le politiquement correct, la pensée unique. Il faut savoir se soustraire de ce genre de monde.
That's what I presented in, for instance, Republican Wives, where these women, rich women, emerge from a culture that is, that's back to that Foucault thing about the cage. We're in a cage. Well, this is a small cage that these women are in. Well, how do you get out of the cage? Well, you have an affair with this guy who's maybe worse than the cage.
C'est ce que j'essaye de décrire dans Les femmes républicaines. Il s'agit de femmes riches qui sortent d'une culture bien particulière, non sans similitude avec la cage de Foucault. Une petite, elles sont dans une petite cage. Comment sortir de cette cage? Peut-être en ayant une liaison avec un homme qui sera peut-être pire que la cage, qui sait?
But we've all had that experience, I assume. You think in yourself, I need some love, I need affection, and then you have an awful experience. You think, I don't need some love, I don't need affection, please, why don't I go have dinner? This is better.
On a tous eu une expérience comme ça. Vous vous dites, il me faut, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'affection. Puis on a une expérience absolument affreuse et on se dit, non, j'ai besoin de tout sauf d'amour et d'affection. Foutez-moi la paix, je veux aller dîner quelque part.
Yeah.
Alors voilà des propos de Jim Harrison qui vont peut-être renforcer l'image de l'écrivain machiste que vous êtes. En tout cas, un écrivain viril qui fait l'éloge de la chasse et de la pêche. Mais vous, cette étiquette, vous l'attribuez à une erreur de lecture. Parce que dans En Marge, vous expliquez que c'est parce que l'homme a été coupé de son moyen de subsistance qu'il a fait, a posteriori, de la pêche un modèle de virilité, alors que c'est tout simplement un mode de subsistance.
Well, it's all a misapprehension. For instance, in my family growing up, my father and my uncles, who had a disastrous time in World War II, okay, they were destroyed. They fished and they hunted all the time, but nobody ever, ever in my life mentioned that that was manly. See, that's just what you do up in the country. So this whole idea of macho or whatever comes from outside that. Nobody of my friends that I fish and hunt with, they never talk about this is manly. What does this mean?
Tout cela, c'est une mauvaise lecture. Mon père et mes oncles, qui ont eu une expérience affreuse pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont été anéantis par la Deuxième Guerre mondiale, allaient à la pêche, allaient à la chasse, mais personne ne disait que la pêche ou la chasse étaient des activités viriles. Chez moi, on pêche et on chasse, un point, c'est tout. Cette idée d'activité macho, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Je n'ai aucun ami avec qui je vais à la pêche ou à la chasse qui considère qu'il s'agit là de quelque chose de macho ou de machiste. Qu'est-ce que ça veut dire?
You know, some of the best fly fishermen in Montana are women. You know, I mean, this is silly. You know, this... Nobody, I don't know who started this. Macho in Mexico is a very ugly thing, you know. Very.
S'agissant de la pêche à la mouche dans le Montana, les meilleurs, ce sont des femmes. Alors, qui a démarré cette image du machisme? Je ne sais pas.
Sure, in Mexico, like, macho is the kind of man that would throw a rattlesnake into a baby carriage. Or sodomize a virgin.
Et le concept de macho au Mexique, c'est absolument affreux. Le macho au Mexique, c'est l'homme qui va jeter un serpent à sonnette dans une poussette ou qui sodomise une vierge.
I don't know where they got this. It's a feminist. It was a misapprehension of feminists who were always attacking me, but then they loved Dalva. And then they loved the what's that in French? La femme au Luciole, the woman lit by fireflies. So they all loved it. So now they don't hate me anymore. I don't know. It's because of political fashion, you know.
Je ne sais pas qui m'a collé cette étiquette, peut-être des féministes qui m'attaquaient comme ça, je ne sais pas. Mais d'un autre côté, elles ont beaucoup aimé Dalva ou la femme aux Lucioles. Aujourd'hui, elles ne me détestent plus. Allez savoir, une histoire de mode politique peut-être.
Alors le risque, effectivement, dans cette perte de contact avec la nature, est plus qu'un souci écologique chez vous, c'est un souci culturel, Jim Harrison. Par exemple, un appauvrissement de la langue. Vous notez que dans votre jeunesse, on appelait une fille un joli pigeon et que les expressions disparaissent doucement de la langue parce qu'en fait, on a de moins en moins de contact avec les animaux. Finalement, protéger la nature, ce serait un souci d'écrivain?
It's a very interesting question because it's a disaster. I practiced, I was very bad at it for 35 years Zen, sinning, you know, to calm me down, Zen Buddhism.
C'est une question très intéressante. En réalité, moi, donc, je me suis intéressé depuis très longtemps au bouddhisme et à la méditation zen.
But then I noticed in the new Buddhist magazines, sometimes there are whole issues they don't even mention, nature. Well, the entire Buddhist discipline is built on natural metaphors. You know, amongst the Chinois and the Japanese from the beginning, it's all, the monasteries were sort of remote in the mountains and the forests and rivers. And so, well, how can you have Buddhism of any sort without natural metaphors? Well, you can't.
Aujourd'hui, lorsqu'on regarde des magazines sur le bouddhisme, il y a parfois certains numéros où on ne parle même pas de la nature, alors que le bouddhisme repose sur les métaphores liées à la nature. C'est vrai chez les Chinois, chez les Japonais, tous ces monastères isolés avec les montagnes, les forêts, les rivières. Le bouddhisme sans métaphores liées à la nature, c'est impossible.
It's interesting. I know a man in New York for 35 years. He's a psychiatrist, psychoanalyst, and I see him occasionally when I have problems. You know, I have problems. And I'm not afraid of this kind of thing. I think it's helpful. But I asked him this, and he said, this is interesting. He's in New York City. He said, how do you think it is to treat people who never can see the sun and the moon and the stars?
Je connais depuis 35 ans un homme qui vit à New York, qui est psychiatre et psychanalyste. Je vais le voir de temps en temps lorsque j'ai des problèmes, et j'ai des problèmes, j'ai pas peur d'aller voir cet homme-là, c'est une aide. Et c'est intéressant, un jour il me dit, comment vous croyez que je travaille moi? Vous croyez que c'est facile de traiter des gens à New York qui ne voient jamais le soleil, la lune ou les étoiles?
See, during the Los Angeles earthquakes, all the lights went out, and some people there were very alarmed at the stars, because they never seen them. They look up and they think, my God, you know, the Milky Way, what's the Milky Way in French?
La Voie Lactée.
Yeah, yeah. Well, where I live, near the Mexican border, there's no light, ambient light, so the Milky Way looks creamy, you know, it's so intense. You think, Jesus Christ, it's not very far away.
Pendant les tremblements de terre à Los Angeles, l'électricité était coupée et il y a pas mal de gens qui ont eu peur des étoiles qu'ils n'avaient jamais vues auparavant. Ils ont vu la Voie Lactée et se sont dit, qu'est-ce que c'est que ça, la Voie Lactée? Moi, j'habite près de la frontière mexicaine. Il y a très peu de lumière artificielle là où j'habite. Et la Voie Lactée, on la voit parfaitement bien. Elle est crémeuse et mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau. C'est absolument magnifique, cette Voie Lactée.
But I remember, you know, Rilke, one of my favorite poets, Rilke the Austrian, he lived in Paris so much. And he was talking about being in the Luxembourg Gardens, where I walk almost every day. He says he was over there looking at the stars. Okay, but this was in 1903, before there was all this ambient light. You see what I mean? So you could still see, study the stars in Luxembourg Gardens, which is interesting, isn't it?
Rilke, un de mes poètes préférés, a vécu à Paris et il dit que dans les jardins du Luxembourg, il regardait les étoiles. Moi, je marche dans les jardins du Luxembourg pratiquement chaque jour. Alors, les étoiles vues du jardin du Luxembourg, très bien, mais Rilke, lui, c'était en 1903, avant qu'il y ait tant de lumière à Paris qui empêche de voir les étoiles.
La nature, Jim Harrison, c'est aussi ceux qui l'habitent, ceux qui la peuplent. Vous faites de votre œuvre un tribut aux Indiens, une sorte d'hommage aussi. Eux vous ont fait découvrir toute une poésie, dites-vous. Est-ce que c'est aussi à la fois la poésie et une sorte d'éthique du souvenir, de l'histoire, qui fait que vous avez cette dette à l'égard du peuple indien?
Up to a point, you know, as my Indian friends say, most of us, frankly, The same proportion of us are assholes as white people. You know, we know nothing. We're stupid people. We blunder along. You know, that's the, you know, this, I think, I know he's translated in French, this Indian writer, Sherman Alexie.
Sherman Alexie. Wonderful.
Right. And also Louise Erdrich, incredible writer. Linda Hogan. But anyway, they're not sentimental about any of this. Yeah, you owe a debt. You know, I was going to write this book called Pilgrimages about everything, everyone I owe a debt to.
Moi, mes amis indiens me disent, vous savez, chez nous, il y a autant de trous du cul que chez vous. Hein. Chez nous, il y a plein de crétins qui connaissent rien à rien. Mais il y a des écrivains formidables, Sherman Alexie, Louise Aldridge, Linda Hogan. Ce sont des gens qui ne font pas du sentimentalisme. Passéiste. S'agissant de la dette, oui, je me sens redevable et j'espère pouvoir repayer une partie des dettes que j'ai envers certaines personnes dans un livre qui va sortir qui s'appelle Pèlerinage.
So where I lived for so many years, 40 years, I said the local tribe, Anishinaabe, Chippewa, asked me to write the introduction to their tribal history. And I says, well, I can't do that. And the chief, the jefe, said, but you wrote Brown Dog, so you understand us. That's very comic. I mean, they have a sense of humor that's never appreciated.
Là où je vivais, ou là où j'ai vécu pendant 40 ans, les gens de la tribu locale, les Anishinaabe, m'ont demandé d'écrire l'introduction à l'histoire de leur tribu. Et le chef m'a dit, vous avez écrit Chien Brun, donc vous nous connaissez, vous nous comprenez très bien. Ce qui est assez comique, en réalité, ils ont un sens de l'humour assez aiguisé, ces gens-là.
But in remote places in America, things are different. I talked to a school teacher in the Upper Peninsula. He teaches Brown Dog to his literature class, and these kids are only 10 or 11. It's very sexy sometimes. And he says they know about this. It's not hurting them. They enjoy to read about something that connects with their life, you know.
Mais les choses sont différentes dans des endroits un peu isolés en Amérique. Dans la péninsule Nord, je connais un enseignant qui fait étudier Chien Brun à ses élèves de 10-11 ans. Dans Chien Brun, il y a des scènes un petit peu osées. Et il me dit, bon, c'est pas grave, ils savent de quoi il s'agit. Ils apprennent rien, là. Ça leur fait pas de mal. Et au contraire, ils aiment bien lire des choses qui se rapportent à leur propre vie.
I think French radio is not censored, is it? You can say things?
Sure.
Okay. Because in Brown Dog, there's this big woman dentist, you know, to fix his teeth. Mm. And she's pulling his tooth, right? Because he has a bad tooth. And he thinks she's so beautiful. She says, the dentist says, this is the only man in my history as a dentist who got a hard-on when he was getting his tooth pulled.
Il n'y a pas de censure à la radio française. Je vais vous raconter une petite anecdote. Dans Chien Brun, il y a une femme dentiste qui arrache la dent d'un patient et il la trouve si belle qu'il est en réalité le seul homme à bander alors qu'il se fait arracher une dent.
But it's surprising who likes Brown Dog. In San Francisco, there's a famous feminist lawyer, very important. And I met her, and she says, I like Brown Dog. And I says, you like Brown Dog? And she says, yes, because he likes women with no backspin, as we say. He just loves them. He's not critical. You know, he's not putting on his lotions. He's not narcissistic, is the point. He just likes women, you know.
C'est étonnant de voir qui apprécie Chien Brun. À San Francisco, il y a une avocate féministe assez connue qui me dit qu'elle aime chien brun. Et moi, je suis assez étonné. Je lui dis, vous aimez ce chien brun? Elle me dit, oui, parce que lui, il aime les femmes pour ce qu'elles sont. Il ne s'apprête pas, il ne se gomine pas, il n'est pas du tout narcissique.
Après avoir un peu arpenté de votre espace américain, Jim Harrison, nous vous entendrons demain nous donner toutes les recettes pour cuisiner sa vie.
Oh, it's fascinating.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Jim Harrison avec Clémence Boulouk en 2006. À voix nue, attachée d'émission Claire Poinsignon, Anne-Catherine Lochard, réalisation Véronique Samouilov, Delphine Lemaire, coordination Béline Dola. Cette émission s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.